Avant de commencer, Serge va disposer les six pages où il y a quelques éléments, pas tout bien sûr ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est quelques éléments, mais enfin bon. Vous trouverez dans ce texte les mots préon, proton, quoi,
baryon,
tachyon, champ morphogénétique, Rupert Sheldrake.
Rupert Sheldrake, si le moteur de machin là, il a été passé là. Marchait pas au tachyon,
pas il marchait. Ça peut pas marcher au tachyon puisque je viens de vous expliquer que le tachyon est.
Alors, qui a utilisé là?
On n'est pas sûr que ce soit pas une escroquerie.
Donc
on n'en est pas absolument certain. D'autre part, c'est une pure hypothèse. Et enfin, troisièmement, on n'arrive pas à reproduire. Donc, est-ce qu'il a utilisé des choses qui sont utilisées par les par les nouvelles technologies, celles qui ont permis, par exemple, les champs hologrammiques qui circulent à toute vitesse? C'est plus que probable. Il a utilisé. Est-ce que c'est l'utilisation de technologies, je veux dire, sulfureuses? Ça, c'est difficile. Pour ça, je ne peux pas y répondre encore à ça. Je ne suis pas forcément penché sur la question. Mais c'est une chose dont je suis sûr, c'est que c'est impossible que ça vienne d'une énergie tachyon. Ça, j'en suis sûr. Les deux grands axes, l'un qui est récepteur de choses d'en bas et l'autre qui est récepteur de choses d'en haut. Si on ne connaît pas les deux principes qui trouvent le récepteur, on aura bien du mal à incarner notre union avec le Christ. On avait vu hier sur le plan de la vie spirituelle incarnée, il y avait un grand mouvement de la vocation humaine qui vient de Dieu et qui va au-delà de notre univers pour retourner en Dieu, entièrement divinisé. Mais que si on n'y prend pas garde, il y a une voie de garage qui nous enferme dans le labyrinthe et nous fait tomber en enfer. On avait vu ça. Et que la clé de lecture de cette double voie est inscrite dans la Didaké. La Didaké, c'est l'enseignement commun de la Serge, afin que ça soit distribué en prière de Bossulé. À cause du péché originel, la spiritualisation du corps, progressivement, qui serait venu en son nom, et qui nous fait passer ensuite en Dieu, dans le toucher du corps spirituel inscrit dans le livre de vie. La bifurcation est ici, vers le métaphysique. Donc le domaine métaphysique utilise dans notre intériorité et notre pratique spirituelle ou d'intériorité ou de mystique personnelle des impressions qui sont des impressions qui sont basées essentiellement sur le ressenti. Je sens très fort Jésus, je sens très fort Marie, je sens très fort le Christ, je sens très fort la lumière. Quand je fais par exemple une NDE, une sueur très forte, coma par exemple, c'est un choc très fort, c'est un choc extrêmement puissant. Regardez ce qu'il fait, il fait une compression. C'est une compression qui vient d'un phénomène de violence naturelle, un accident, une peur effroyable. Il y a quelqu'un qui, moi j'ai connu deux cas comme ça, en moto. Un accident. Il commence à s'envoler, il se voit s'envoler, il a tellement peur de ce qui va se passer quand il va s'écraser, que avant de s'écraser, cette peur, cette terreur comprime chez lui un désespoir qui est empêché. Et un désespoir instinctif comprime du coup, comprime son point de vue spirituel, donc déclenche d'un seul coup. Un survoltage métaphysique dans son psychisme, et du coup il se barre. Il se barre, et avant même qu'il se soit écrasé, ça y est, il est rentré dans le tunnel noir, le fameux tunnel noir, qu'il fait déboucher dans des zones de lumière ou des entités qui parlent d'amour, lumière. La thérapie du double. Ça, c'est ce qu'on avait vu hier. Mais la rupture, c'est quand je fonctionne en fonction du ressenti. La lecture que nous devons avoir, qui est la lecture de base du chrétien, c'est Saint Jean de la Croix, montée du Carmel. Là, au moins, vous prenez ça, je veux dire, c'est facile à lire, c'est très commode. Et au moins, vous savez qu'avec lui, vous ne risquez pas de fonctionner en fonction du ressenti mystico-dingo. Parce que le ressenti mystico-dingo nous fait bifurquer ici. Charismatico-mystico-dingo. Oui. Alors, attention, c'est pas le ressenti. C'est pas le ressenti. C'est dans la nuit de la foi que je rentre de plus en plus dans la mort du Christ, et la mort du Christ me fait rentrer dans la vie divine du Verbe de Dieu que j'ai expérimenté dans mon corps originel, dans tout ce qui est mort dans le ressenti de mon corps. Alors à ce moment-là, j'avais représenté, vous vous rappelez, la vie spirituelle qui est en moi un peu contractée, un petit peu réprimé à cause du péché originel. À chaque fois que je vis dans la nuit de la montée du Carmel de Saint Jean de la Croix, par la lumière, la nuit de la foi, je rentre dans la nuit de la foi spirituellement, et je m'unis profondément au corps de Jésus, tandis qu'il est totalement mort, qu'il n'y a rien de ressenti en lui. Jésus ne ressent rien quand il est mort. Une fois que tu es mort, tu ne ressens rien. Quand tu es mort, tu ne ressens rien. Alors, donc si spirituellement tu fais vivre dans ton corps la mort totale de toi-même, la mort vivante, la mort du ressenti, la mort du vécu, la mort de tes opinions, parce que quand tu es mort, tu n'as plus aucune opinion. Si tu es nietzschéen, tu n'es plus nietzschéen quand tu es mort. Ton corps, il n'est pas nietzschéen, c'est ton intelligence. C'est tes opinions qui sont nietzschéennes, vous voyez. Et tes affectifs, c'est ton corps, c'est pas ton corps qui est amoureux, c'est ton âme affective qui est amoureuse. C'est tes flux sentimentaux qui sont amoureux, vous voyez. Mais quand il n'y a plus ça, donc quand tu es totalement mort par la
quand tu rejoins la mort du Christ, tu te mélanges comme l'eau se mélange au vin dans le corps mort du Christ qui lui ne ressemble rien, il est mort. Alors à ce moment-là, l'esprit du Christ, le Père de Dieu qui a illuminé ton corps originel, te permet à ton esprit de rejoindre, vous voyez, par surabondance, là, ici, l'aspect vraiment physique du corps qui est au tien. Et dans la nuit de la foi, du coup, tu spiritualises ton corps. À chaque fois que tu t'unis à Jésus crucifié, mystiquement, tu spiritualises ton corps. Tu retrouves par fulgurance, dans un moment peut-être fulgurant, qui peut durer peut-être 3 secondes seulement. C'est pourquoi je vais revivre dans ma chair, dans mon sang, dans mon corps, ce que le Christ vit dans l'instant de sa mort et dans les instants qui suivent. Alors, dans les instants de ta mort, c'est qu'il ne vit plus rien d'autre que le fait que ce Père de Dieu, c'est si le corps. Mais attention, c'est le corps du coup, c'est aussi fondamental. Puisque ses organes ne vivent plus, son cœur ne bat plus, son cerveau ne fonctionne plus, ne vit plus. Donc les seules choses qui vivent encore, si je puis dire, dans le corps du Christ, c'est ce qui fait son unité métaphysique. Et ce qui fait l'unité métaphysique du Christ, comme de notre corps à nous, c'est l'unité universelle qui passe dans la même mémoire ontologique génétique de l'unité du corps avec la personne. Et donc, la mémoire cellulaire de l'union hypostatique du Christ reste unie au Verbe de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est des définitions de la foi du Concile de Chalcédoine, hein, ça a 17 siècles. Hein. Tous les chrétiens savaient ça il y a 1700 ans. C'est vrai qu'il y a une dérégénérescence de l'intelligence chrétienne qui est incroyable. N'importe quel chrétien savait ça, vous savez. Alors,
il y avait pas mal de
matières. Donc vous comprenez bien quand il y a la fin de la croix, lui, il formule ça de manière poétique. Parce que nous, on a notre poète, tu comprends? Bon, alors. Si je mettais de la confiture, vous voyez, vous connaissez Saint-Jean d'Arc, la montée du Mont Carmel.
Il parle de plusieurs nuits.
Pardon ?
Il parle de plusieurs nuits, ou non ?
La nuit, tu rentres dans la nuit. Donc tu montes au fur et à mesure là, par la montée du Carmel, parce que plus tu rentres dans une la nuit, plus tu t'associes. C'est parce que tu la nuit du Christ est en toi, et comme l'eau se mélange au vin, elle s'empare de toi, elle s'empare de ta mémoire génétique. Elle s'empare non pas de ton cerveau, elle s'empare pas de ton cœur, elle va pas s'emparer de tes tachyons. Elle va s'emparer de toutes les cellules de ton corps, dans l'unique mémoire ontologique, dans l'unique identité de ton cœur, de ton corps, de ton âme, de ton esprit vivant. Et ça, c'est au niveau du corps originel que surgit du dedans, par la foi, la lumière surnaturelle de la foi, fait surgir la mort du Christ en toi. C'est ta nourriture qui fait lever ton corps, comme on fait lever le pain par un levain. Et ce levain-là, ce n'est pas le levain du monde ancien, c'est le levain du monde nouveau. Bon, alors, comprenez bien que si je ne vis pas de la nuit de la foi, et que du coup je suis porté à rentrer dans ce que je ressens, je tomberai forcément dans cette bifurcation et dans cette tentation. Donc ça, je vais résumer ce que je vous ai expliqué hier. Maintenant, je pense que c'est l'enseignement fondamental de la foi, c'est que on ne s'appuie jamais sur ce qu'on ressent. Si on s'appuie sur ce qu'on ressent, il est foutu. Attention, je répète une autre chose que je vous ai déjà dit. Aujourd'hui encore, on peut bétonner si on fait les imbéciles avec ça. On peut faire du mystico-dingo encore si on veut. Un peu, hein, pas trop, s'il vous plaît, pas trop. Allez, 1%. 1% de mystico-dingo, si vous voulez. Ça, j'aime bien avoir de temps en temps Serge avec moi, tout ça.
Ah, je suis au Mont Carmel. Hein? Saint Jean de la Croix, il y avait marqué Saint Jean de la Croix, nada, nada, rien que la croix.
Trois fois, nada. Ça, c'est Saint Jean de la Croix. Il ne peut pas courir, il a marqué ça. Il faudrait que tu incarnes le truc. Hein. Alors. Le verbe, c'est fait cher, c'est pas vrai. Donc tu prends encore un petit peu du 2% mystico dingo, ça va, c'est pas grave, on peut bétonner par là, c'est pas un problème. Mais attends, le pont-levis a commencé à se lever, 26e jour, 2e mois, l'an 1. Paf, on va passer de l'autre côté, probablement fin 2005, mais c'est possible que si on arrive grâce à la directrice, à notre mission la plus importante du temps auprès du pontife suprême de l'humanité, à ce moment-là, peut-être qu'on pourra repousser quelques années. Mais une chose est sûre, notre mission auprès du pape et des évêques, pour repousser l'échéance de septembre 2020. Donc une chose est sûre, c'est que le pont-levis va tomber, et donc les lois d'intervention, les permissions qui sont données à l'humanité d'intervention, des opérations humaines Illuminati qui utilisent 1. Le réseau A, 2. Les fréquences métaphysiques, 3. Les énergies de réseau, 4. La communion aux puissances intermédiaires, 5. Les ouvertures fondamentales du mental cellulaire dans chaque être humain, ainsi que les R26, les champs morphogénétiques de l'ensemble de l'humanité. Cette conjonction sur laquelle s'entraînent depuis maintenant 30 ans tous les ateliers de Wesop.
Les ateliers.
Les ateliers de Wesop.
C'est marqué dans vos notes
ou... Non.
Vous pouvez me le répéter
sur le site. Les ateliers de Wesop. Non, vous trouverez ça dans mon site.
Catholique. Non, je n'ai pas internet, je ne peux pas.
Vous trouverez ça dans mon site catholique, du coup. Maintenant, je ne peux pas mettre tout ce qu'il y a dans mon site.
Juste les 4 trucs.
Non, si vous voulez, vous avez prenez à mon site, vous avez peut-être un mois pour lire mon site.
Les gosses qui sont
cooptés pour rentrer dans ces ateliers de Wesop, c'est plusieurs témoignages, ils sont cooptés à la naissance, ou à l'âge de 1 ou moins de 2 ans, avant l'apparition du langage. Ils sont entraînés depuis l'âge d'enfance. Dans chaque atelier, il y a environ 10 à 15 personnes. Et ils sont entraînés donc à utiliser les champs morphogénétiques, les champs tectoniques, les énergies, la coopération avec les puissances intermédiaires, le rayonnement sur une réunion, par exemple, du conseil municipal. Ces gens-là s'entraînent. Le réseau rastre, peut-être.
Non,
je ne vais pas employer le mot qui rache.
Comment s'appellent les ateliers là?
Ways out.
C'est ça qu'elle a parlé.
Ways out, je connais.
Bon, peu importe, ça c'est des gens. Ils sont 200 000 rien qu'aux États-Unis. À Prat, vous avez 3 ateliers. Là. Le petit village de Prat, 3 ateliers. Pardon ? Mais non, les francs-maçons, c'est autre chose. Il ne faut pas confondre les ateliers de Wesop et les francs-maçons. Ça fait partie du même corps mystique, c'est le corps mystique de la pieuvre noire, lequel est dirigé par les Illuminati au sommet. Les Illuminati au sommet ne sont pas les Illuminati de Wesop, hein. C'est autre chose. Hein. Vous ne comprenez pas, les Illuminati qui dirigent l'ensemble de la pieuvre noire, et puis les Illuminati de Wesop qui sont le bras armé, les soldats métaphysique de l'Antichrist. Simplement une chose qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où l'abomination de la désolation, pardon, ici, va passer pour perturber tous les champs morphogénétiques de l'ensemble de l'humanité, ouvrir l'espèce de chakra, si vous voulez, sur tous les hommes ainsi que sur leur tissu interrelationnel, alors à ce moment-là, ici, ils vont commencer leur attaque. Et donc ici, si vous ouvrez un tant soit peu les portes, vous appartenez à l'Antéchrist, point à la Bible. Donc il faut recevoir la délivrance avant, la coupure des liens avant, fermer les chakras, sentir pour aller ouvert avant, bannir toute sensibilité métaphysique médianique, la bannir totalement. Parce que toutes ces sensibilités-là sont des sensibilités qui viennent d'une suractivation psychique par carence de la nuit spirituelle dans l'unité du corps, de l'âme et de l'esprit. Ça, c'est le fondamental de la vie chrétienne et puis aussi de la vie philosophique, de la vie humaine normale. Oui. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on avait dit. D'accord. Vous vous en rappelez que c'est ça que j'ai dit hier. Alors, je complète ce que j'ai dit hier. Pardon. Résumer ce que j'ai dit hier, ça peut être long, on complète. Ici, je suis à l'intérieur de mon tableau. Je suis à l'intérieur de mon tableau. Je suis à l'intérieur du monde. Voilà. Je suis à l'intérieur de l'espace et du temps. De mon univers. L'univers dans lequel nous existons et nous vivons. Mais il ne faut pas oublier que si j'existe dans cet univers, j'ai commencé d'exister dans cet univers par l'acte créateur de Dieu. C'est Dieu qui m'a créé. C'est Dieu qui est rentré dans le point ontologique de l'unité sponsale de mes parents dans le processus de fécondation. Oh, ça, il va falloir que je l'explique. Allez, allez, bon. Bon. Après, en tout cas, il a surgi à l'intérieur de mon génome qui est apparu dans ce monde, dans le temps et dans ce lieu et cet instant-là pour irriguer le monde entier aussi, le soutenir, comme on disait ce matin, de la lumière, de ses motions et donc de sa présence physique, paternelle et lumineuse. Ce qui fait qu'il a une présence de providence à l'intérieur du monde grâce à cette possibilité que les hommes lui laissent encore de tenir l'ensemble du monde dans sa main en tant que Père et Providence. Il ne faut donc pas oublier une chose, c'est ça, premièrement. Deuxièmement, il ne faut pas oublier non plus que Dieu, lui, n'est pas dans notre monde. Dieu, il est avant la création du monde. Il est en dehors du temps et de l'univers. Il est au-delà de l'univers. Il est tout autre que l'univers. Il contient tous les instants de l'univers dans un amour éternel. Et l'instant éternel de Dieu aspire tous les instants de l'univers qui ne sont rien en lui. L'éternité absorbe tous les instants. Quand on fait un acte d'adoration, donc l'instant présent et la présence de notre monde, de nous dans le monde terrestre, n'existe plus. Il est absorbé dans l'instant éternel de Dieu qui absorbe tous les instants. Ils sont en fait des instants purement transitoires dans notre univers. Le rôle donc de l'image de Dieu et de la résonance de Dieu dans notre corps, notre âme et notre esprit, c'est de savoir que nous avons une origine et que nous sommes toujours capables de ressaisir dans notre origine. On a été créé à partir de rien. Ça c'est la foi. Ex nihilo. On a été créé du point de vue à partir de rien. Et donc si je vais dans ce qu'il y a avant l'instant, le milliardième de seconde qui existe avant ma plénitude originelle, il n'y a rien. Donc si spirituellement je touche dans mon corps originel ce rien à partir de quoi je suis en plénitude dans ma première cellule totalement unie à Dieu et au monde, à ce moment-là je touche l'odeur que le Christ vit dans la nuit du sépulcre, lorsqu'il est mort. C'est dans le corps que je vis ce rien. Et du coup, je peux conjoindre l'eau, cette odeur du rien, du néant. Sainte Catherine de Sienne qui explique ça. Hein?
Oui.
Cette odeur de néant, je touche et j'associe, ça fait l'eau, avec le vin, qui est précisément le vin des noces, de ce qui est dans la cuve, dans la cave, si vous voulez, du Saint-Sépulcre, le Verbe de Dieu, qui est dans le corps mort de Christ. Il ne vit rien sur le plan terrestre, mais pourtant c'est le Verbe de Dieu qui, au-delà du monde, fait vivre ce corps qui est dans le sépulcre là. Donc je conjoins l'eau avec le vin, et du coup je rentre dans la montée du Carmel de Saint-Jean de la Croix. Il n'y a pas d'autre moyen pour rentrer dans la dynamique, de retrouvailles du corps, de l'âme et de l'esprit, dans l'unité de l'un retrouvé, qui se retrouve du coup dans le corps mystique, vivant, incarné du Christ. Vivant, entier. Résumant, entier. Tout ce trajet entier. Résumant, entier. Alors, on vient donc, la créateur de Dieu vient de Dieu qui est en dehors du temps et en dehors de l'espace, en dehors de notre univers. Et c'est pour ça que le pape dit que quand Dieu surgit pour créer à partir de rien, rien spirituel à son image et à sa ressemblance, aussitôt lui qui est là dans l'instant éternel qui absorbe tous les temps, il est là-bas. Parce que l'instant éternel, il est ici, il est là. Il n'y en a qu'un seul instant éternel. Donc il t'inscrit, quand il te crée là, dans le livre de vie. Et le livre de vie, lui, est dans l'éternité. Et le livre de vie, donc au moment où Dieu me crée, il m'inscrit. Attention, vous voyez, ça c'est très, très très fort. Il m'inscrit, je suis inscrit. Je suis écrit dedans le livre de la vie. Ça, c'est quand même très très fort. Ça veut dire que, ici, à partir du moment où j'existe ici dans ma mémoire, ontologique, ma mémoriale Deus, je suis inscrit ici dans mon corps par le génome, et en même temps, mon double, chaque fois que vous avez une tentation diabolique, l'histoire du double dont on parlera, c'est qu'il faut bien remplacer le véritable double. C'est que la mémoire de Dieu qui est dans mon génome ici, et qui m'appelle sans arrêt à traverser le temps jusqu'à rejoindre éternellement la ressemblance de Dieu, a un double. Et ce double, il est inscrit dans le livre de vie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'écrit, et donc de physiquement écrit. Je dis bien, je pèse mes mots. Physiquement écrit à l'intérieur de Dieu, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Parce que le livre de vie, c'est le cœur ouvert du Christ dans le sépulcre, dans le tombeau. Parce que le corps du Christ est dans le tombeau, il ne vit rien de terrestre, puisqu'il a son cœur ne va plus, son cerveau ne fonctionne plus. La grâce capitale qu'il exploite à l'intérieur de son incarnation, de la rédemption et même de sa résurrection n'est pas là. Mais par contre, il y a le Verbe de Dieu qui, lui, est là. Et donc, le livre de vie, c'est le corps mort du Christ, la blessure du cœur de Jésus. Dans l'Écriture, quand vous lirez la Bible et que vous verrez l'expression suivante, Agneau de Dieu, ou agneau tout court. Agneau, dans l'Apocalypse par exemple, dans la Torah, à chaque fois que vous voyez agneau de Dieu, traduisez immédiatement blessure du cœur. Pourquoi? Parce que l'agneau, dans la Bible, est toujours, invariablement, et exclusivement associé à l'agneau égorgé. L'agneau égorgé, c'est le cou. Il est égorgé ici au cou, et un cou est transformé en ouverture béante, et le cou, ça représente le lien entre Dieu, le ciel et la terre. Ce lien, c'est le prêtre, c'est le médiateur, c'est le prêtre éternel. Et le prêtre éternel doit être sacrifié. Et ce sacrifice est inscrit. Non pas dans le temps, ce sacrifice est inscrit
dans l'éternité. Et l'agneau de Dieu, donc, il est sur le trône, il n'est pas sur le temple, il n'est pas sur l'autel, il est sur le trône. Ça veut dire qu'il est dans l'éternité, l'agneau. Et l'agneau, c'est quoi? C'est cette blessure du cœur béant de Jésus, dans son corps mort, mais vivifié, et qui attend précisément qu'on s'engouffre tout dedans, en s'engouffrant, en s'assimilant nous aussi, à notre inscription dans cette blessure du cœur, qui elle est glorieuse. Et pour pouvoir rejoindre l'inscription dans la blessure du cœur glorieux Jésus, qui est dans l'éternité, il faut que je parte, moi, sur la terre, avec ma memoria Dei, avec ma liberté profonde spirituelle, avec ma contemplation dans la nuit de la foi, avec la lumière surnaturelle de la foi, avec l'espérance d'une pauvreté substantielle et absolue. Il faut que je rentre dans la blessure du cœur de Jésus, qui est mort. Donc si je ne passe pas par la mort du Christ, moi qui suis à l'image de Dieu, je ne serai jamais à la ressemblance de Dieu. Plus simple, tu meurs. Hein. C'est le cas de le dire. Donc si le pape dit, quand Dieu me crée au niveau de l'apparition du génome, au même instant, dans l'encyclique Evangelium Vitae, hein, Evangelium Vitae, au même instant, je suis inscrit dans le livre de la vie. Ah, et je peux très bien m'effacer du livre de la vie. Je suis inscrit, mais je peux m'effacer. Ça, c'est un des pouvoirs de l'homme prodigieux. Le pouvoir qu'on a est un pouvoir extraordinaire. On peut librement, notre liberté consiste à ça, dire non, je vais me désinscrire du livre de la vie. Comment est-ce que je vais faire pour me désinscrire? Très facile. Il suffit de rentrer dans la bifurcation ici. Le ressenti. Ça, vous savez, tous les docteurs de l'Église, hein, c'est constamment ça que dit. Tous. Saint Benoît, Saint Jean de la Croix, Saint Thérèse de Villa, Saint Catherine.
Ils ne sont pas en prison ces jours-là. Ils ne sont pas en prison là.
Non, je dis, ils disent qu'il faut tout passer par la nuit de la foi et par la mort du Christ, sinon on n'aura rien de la ressemblance de Dieu.
C'est un mot moderne.
Mais métaphysique, on est obligé de parler de métaphysique aujourd'hui parce que tout le monde te dit, voilà, on va vivre spirituellement, mystiquement, formidable, regarde.
Un peu de l'esprit.
Voilà, donc on est sa tête, oui.
Ah, c'est génial, parce que je me sens bien.
Oui. Vous voyez qu'on essaie d'aller un peu plus loin qu'hier, puisque ici on essaie de déborder dans le principe éternel de et intérieur, dont je garde la mémoire à l'intérieur de mon génome, de ma mémoire, memoria Dei. Cette inscription dans le livre de vie qui est au-delà du temps. Et qui m'attend, et qui pulse, si je puis dire, dans mon corps originel, comme un appel. Parce que du coup, moi, quand j'ai été là, Dieu m'a créé avec une âme spirituelle. Mais l'âme spirituelle implique vérité, amour et liberté. C'est les trois puissances spirituelles de l'âme. Vérité, donc tu es lucide dans ta vie intérieure. 9 mois avant ta naissance, tu es parfaitement lucide. Vérité. Dieu vit un au-delà de l'affectivité, parce qu'il n'y a pas d'affectivité, puisqu'il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de passion. Pour qu'il y ait des sentiments et des passions, il faut qu'il y ait de l'irascible et du concupiscible. Et pour qu'il y ait de l'irascible et du concupiscible, il faut qu'il y ait des éléments nerveux. Alors il n'y a pas de cellules nerveuses à ce moment-là. Donc pas de problème. Donc il y a aucun. Mais il y a un vécu d'amour humain parfait. Et enfin, il y a une liberté, c'est-à-dire une capacité d'enravissement, d'accéder complètement au accéder. Et donc, nous avons commencé par cela. Oui, nous avons commencé à partir de rien et immédiatement dans une intériorité où notre âme avait les dimensions de l'amour créateur de Dieu dans le monde, d'une part. Voilà pour qui la mémoire
notre intériorité tournée vers ce qui se passe dans le monde, mais en même temps, nous sommes tournés par l'instant, l'acte créateur de Dieu, à l'instant de l'éternité, et nous pulsons dans notre inscription dans le livre de vie, et c'est nous-mêmes, avec Dieu, qui nous sommes inscrits dans le livre de vie en disant oui, éternellement. Et ce oui éternel que nous avons prononcé dans la première advenue dans le corps spirituel de l'homme, ce oui continue, et on sait très bien qu'on doit traverser toutes sortes d'opacités, de nuits, d'obstacles, de péchés. On le sait. Et on dit oui, je dis oui, mais je vais traverser tout ça, malgré tout. Et je sais qu'il va falloir que je passe avec la mort du Christ dans ma mort, et ma mort, parce qu'il va falloir que je meure, un certain nombre de choses dans la mort du Christ, et que sans elle, c'est strictement impossible pour moi d'aller jusqu'au bout de ma vocation dans l'inscription des livres de vie. Mais si je refuse la souffrance, si je refuse la croix, si je refuse Jésus crucifié, il ne me reste plus qu'une seule chose, moi je veux vivre du Christ, mais à condition de ne pas avoir de sang. À condition de guérir. Ah, si je suis totalement guéri, ça va bien, c'est bon, Jésus c'est le prix. Mais sinon, non. Hein.
C'est ce que dit Saint-Pierre.
Ah, Jésus, dis ça, sur la croix, dis donc, non, ça c'est... Non, non, la croix, non, 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 non. Saint-Pierre dit, tu es le Messie. Le Fils du Dieu vivant. Ah, ça c'est le pape qui t'a enseigné ça. La seconde d'après, Saint-Pierre avait dit, il dit, mais vous savez, je vais être livré à vie, je vais livrer ma vie, je serai crucifié, crucifié. Puis je ressusciterai le troisième jour. Et Saint-Pierre lui dit, Jésus, Seigneur, excuse-moi, viens. Seigneur, ça, ça va. Faut pas que ça t'arrive, ça. Faut pas que ça t'arrive. Je suis tous plus Arrêtez! 5 secondes avant, lui a dit, c'est l'Esprit Saint, c'est le Père qui a parlé par toi. 5 secondes après, il lui dit, Arrêtez! Si tu comprends pas, c'est que vraiment t'es soigné, quoi. Hein. Mais attends. Ah, moi, je veux bien Jésus, à cause d'être guéri, et que tout aille bien, tout va bien. Mais la croix, non. Alors, ça, c'est là. Passer par la croix. Il faut passer par la nuit. Celui qui ne prend pas sa croix, je ne suis pas, vous savez bien, pas digne de moi, mais c'est des trucs qu'on a tellement entendus qu'on ne comprend pas le concret de la manière exacte de procéder. Il y a quelque chose.
Et en quoi ce programme déplaisait-il à Lucifer? Pourquoi il n'était pas d'accord, Lucifer?
Alors,
le livre de vie, lui, il était au courant ou quoi?
Ah, oh bah oui, bien sûr, lui. Le fait d'être inscrit sur un livre de vie, ça c'est le propre de l'homme. L'inscription implique la matière.
Il ressemble à ça.
Donc le démon, lui, il sait que tout se joue dans la création, non pas en fonction de lui comme centre, parce que quand même, c'est ce qui s'est né. C'est la création spirituelle créée la plus parfaite. Lucifer. Si au moins, je n'ai pas la boue de la matière. Minuscule. Mais non, ça va passer par le plus petit être spirituel le plus lamentable et par le moyen spirituel le plus lamentable par la nuit. Donc lui il refuse et la nuit de la croix puisqu'il est lumière et le fait de ne pas être le centre, le roi fraternel de Dieu dans l'univers. Il aurait voulu être l'instrument royal, sacerdotal de l'univers. Et bien non, ce sera le corps. Ce sera le corps vivant d'une vie spirituelle qui sera le lieu de Dieu lui-même dans le Christ.
L'incarnation.
Donc le Christ ne va pas se saisir, vu ce que Lucifer, il aurait voulu quoi. De toute façon, il sait très bien Lucifer, dans son intelligence angélique, qui à ce moment-là est parfaitement juste, parfaitement belle, parfaitement bonne. Enfin, il est créé par Dieu, il est parfaitement juste, parfaitement beau, parfaitement limpide. Il est appelé, hein. Attends, il est appelé, il n'est pas appelé à la chute, il est appelé à dire oui. D'accord. Mais quand il voit que, en même temps que lui, au commencement Dieu créa le ciel, c'est-à-dire le monde angélique, et la terre, c'est-à-dire la matière, tout de suite il comprend. Immédiatement il comprend. Nous, il nous faudra des siècles pour comprendre, mais Lucifer en une seconde il a compris. Enfin, une seconde, il n'y a pas de seconde, justement, à ce moment-là. Il comprend tout de suite que, il comprend tout de suite qu'il ne va pas être le centre. Puisqu'il aurait voulu que ce sera justement l'association entre le ciel, c'est-à-dire la vie spirituelle, et la matière, le corps, qui sera le centre,
de la gloire de Dieu, l'instrument de la gloire de Dieu, le sacerdoce de la gloire de Dieu, la médiation de tout. Le roi fraternel de l'univers, ce sera un échange entre l'esprit et la matière, ce sera donc le corps humain. Bon. Et donc, il comprend tout de suite que Dieu, quand il va prendre, quand il va se saisir de l'univers pour le diviniser en entier, il va se servir d'une matière spiritualisée, donc du corps humain. Il aurait voulu que Dieu puisse se saisir pour illuminer et reprendre et assimiler en lui tout l'univers, ce serait de lui, que Dieu se fasse ange plutôt que Dieu se fasse homme. Et si Dieu s'était fait ange en prenant ce qu'il y a de plus pur, dans le point de vue spirituel à l'état pur de la création, Dieu le Verbe aurait saisi dans une unité presque substantielle, c'est ou quasi substantielle, Lucifer, pour être le lieu de l'illumination de tout, de la réceptivité de tout et de la glorification de tout. Eh bien non, il faut que lui, il serve au contraire. Il n'est pas le lieu de la, si je puis dire, de l'incarnation. Il ne faudrait pas dire incarnation, puisqu'il n'y a pas de chair dans Lucifer. Il faut dire l'intemporisation. L'inscription dans le temps. Il aurait voulu être le lieu de Dieu pour tout l'univers. Mais seulement à ce moment-là, il n'y a pas d'amour, parce qu'il est purement lumière. Il faut le corps pour que dans la nuit de tout, je puisse quand même me donner sans aucune lumière. C'est ça qui est extraordinaire parce que il va y avoir deux choses. Il faut comprendre une chose qui est très simple, je pense, à saisir. Il comprend tout de suite que ce n'est pas lui, alors, et que en plus, il va falloir qu'il devienne le serviteur. Si vraiment il dit oui à Dieu, il va qu'il va nous devenir le serviteur de ces espèces de minuscules connards. Attends, tu vas voir si vous avez un service, moi. Je vais vous rayonner, vous allez voir si je vais vous brûler au cul.
Non, mais ça, c'est les affects, là.
Oui. Non, mais
si je peux me permettre, c'est que l'ange a une fonction et il porte le nom de sa fonction. Donc, Satan, c'est celui qui se met à travers du chemin.
Ah, c'est vrai.
Mais et ça, c'est celui qui lui permet de faire des choix. Et il ne peut pas y avoir de liberté sans choix. Donc sa fonction est tout à fait nécessaire, sauf qu'elle est dévoyée dans son libre arbitre.
Oui, mais avant d'être Satan, il n'est pas Satan. C'est un
homme qui est à part. Mais l'homme n'est pas encore là.
Avant d'être Satan, il est vraiment merveilleux. On y reviendra sur la manière angélique d'exister, de vivre et d'être la conscience angélique, hein, si je puis dire. Bon. On est sur un autre sujet, puisqu'on essaie de regarder le soulagement du corps, hein, la douleur dans le corps, et pour donner la paix dans le corps, à travers le corps. Bon. Donc c'est pour ça que ce n'est pas tout à fait le sujet, si je puis dire. Hein. Mais voilà, regardez par exemple l'histoire de la nuit. L'histoire de la nuit. Il y a deux choses qui étonnent Dieu. La première chose qui étonne Dieu, c'est que, une fois qu'on a dit oui, Adam et Ève, par exemple, une fois que tu as tout, tu es dans le ravissement, le Dieu Seigneur, il te donne tout. Puis en plus, il te donne sa divinité, il te donne sa grâce, il te donne tout. Et toi, comme un imbécile, tu files dans les ressentis. Et non. Alors, on te dit, attends, je ne comprends pas. Tu choisis le péché, après avoir dit oui, avoir... savoir, je dis, toi tu choisis le péché, tu choisis d'aller avec le Satan. Le péché, pour le Seigneur, pour Dieu, il ne peut pas comprendre le mal. Dieu ne comprend pas le mal. Il ne peut pas. Pour lui, la lumière, c'est l'amour, l'amour, c'est la lumière, la liberté, c'est oui. Et que lui, il donne tout pour que les gens disent oui, tout. Et que les gens disent non, enfin, fassent le mal, ça, bon Dieu ne comprend pas. Il ne peut pas comprendre. Dieu est innocent du mal. Dieu ne comprend pas. Il est désarmé dans le mal. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il est désemparé, désarmé. Dieu ne sait pas ce que c'est que le mal. Dieu est innocent du mal.
C'est la
première chose qui étonne Dieu, c'est le mal. Mais ça l'étonne. Sa toute-puissance est désarmée. La virginité de l'innocence de Dieu est tellement, est sans limite, sans nom. C'est la première chose. La deuxième chose qui étonne Dieu.
C'est dangereux, ça voudrait dire qu'il est impuissant.
Absolument, pas son mal.
face au mal, Dieu est impuissant. Donc la deuxième chose qui étonne, c'est pour ça que la seule chose qu'il puisse faire, c'est puisqu'il est étonné, et ben, que sa toute-puissance va donc s'engolfer entièrement dans cet étonnement, et il va s'incarner pour assumer le mal lui-même sur la croix. Et si Dieu n'était pas innocent du mal, c'était impossible qu'il s'incarne pour la rédemption. S'il n'y avait pas eu le mal, jamais le Verbe de Dieu se serait incarné. Et si le Verbe de Dieu s'est incarné, c'est uniquement pour aller jusqu'à la croix, jusqu'au tombeau, jusqu'au sépulcre, jusqu'à l'agneau de Dieu. Ça, c'est la première chose. Et vous voyez, parce que s'il était innocent, s'il n'avait pas été complètement stupéfait, tout se rassemble, toute la puissance de Dieu se rassemble dans cette stupéfaction, dans cette innocence, dans ce désarmement. Et hop, il s'incarne pour être crucifié. Il n'y a pas d'autre raison à l'incarnation que la crucifixion. C'est pour ça que si j'aime Jésus, mais que je ne veux pas voir qui va être crucifié, je ne veux pas en vivre, ça veut dire que je ne sais pas qui est Jésus. Et Jésus au jugement dira, moi, je ne vous ai jamais connu. C'est le Christ cosmique, vous, que vous aimiez, moi, non. Je ne vous ai jamais connu, jamais. Alors, la deuxième chose qui étonne Dieu, c'est quand il regarde ici, ces petits Benjamins qu'on est nous, parce que nous on est les petits frères, quand le petit gosse il a 4 ans et que son frère est né, qui a 17 ans, je vais te montrer tout ce pipi, machin truc, puis regarde, on va faire des patriotes, on va pisser sur les tombes, on va, etc. Enfin, le petit garçon, son grand frère, il dira, après quand il dit, le papa, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait là? Attends, c'est qui est coupable? C'est le petit, là? Ou bien c'est le grand? Et bon, vous comprenez, le bon Dieu, il sait bien que nous, on est tout petits. Et que le serpent antique, Satan, qui est le grand, il dit, il nous entraîne. Donc, il nous rend la vie impossible, ces espèces de trucs qui circulent sur les fréquences métaphysiques. Il dit, alors nous, les petits Benjamin, de rien du tout. Vous comprenez? Et puis, en même temps, on a la propagation du péché originel, là. En plus, non seulement déjà quand on est petit et faible, on a le tintin en trousse, mais en plus, propagation du péché originel déjà. Quand vous voyez les handicapés, mon Dieu, il est comme ça. Ah, et c'est quand même complètement incroyable. Complètement incroyable, c'est quoi? C'est que, du coup, nous, on dit, ok. Ah ben, on est complètement sarbé, flippé, tac, tac. Oh, on fait des erreurs. On pisse sur les tombes, hein. Ah bien, c'est vrai. On est transformé en passoire. On sait bien que c'est ça qu'il ne faut pas faire. Mais de temps en temps, on ne résiste pas, mais quand même. Bon. Et puis finalement on se dit, oh mon Dieu, ça j'ai mal fait, je demande pardon, ouais Seigneur, je vais plus le faire, puis il sort. Deux jours après je recommence exactement pareil, si vous voulez pas. Puis je me relève, je dis, allez, je ravance quand même, je demande des. Et puis finalement, à certains moments je m'arrête, une seconde peut-être, une seconde là, je m'arrête, de temps en temps, une seconde ici, et puis je dis, moi, je n'y comprends rien, j'y vois rien, mais je me donne entièrement à Dieu. Je ne le vois pas. Je suis dans la nuit. Je suis dans le péché jusqu'au cou. J'y comprends rien. Je crois à ce que dit la Sainte Église catholique, apostolique et romaine sans rien comprendre. La seule chose que je comprends, c'est que c'est infaillible. Parce que l'Église catholique, apostolique et romaine est infaillible. Pourquoi? Parce que la doctrine de l'Église catholique, apostolique et romaine est infaillible. Pourquoi? Parce que c'est la vérité qui sort de la bouche du Christ et la seule promesse que Dieu ait faite au corps mystique de son Église catholique, apostolique, jusqu'à la fin du monde, c'est que du point de vue de la doctrine, il n'y aurait jamais d'erreur. C'est la seule promesse que Jésus a faite à l'Église catholique.
D'accord.
Il n'a jamais dit la puissance de l'enfer entre votre droit, jamais contraire. Et donc, il n'a jamais dit que le pape ou l'évêque ne ferait aucun péché. Ah non, la preuve.
Hein? Oui. Donc, le pape, il fait des péchés, l'évêque fait des péchés, Borgia, tout ce que tu veux. Mais la doctrine, alors là, est infaillible. La doctrine mystique spirituelle de l'Église, c'est sorti de la bouche du Christ, et ça, il n'y a aucune erreur. Jamais. Pas la moindre. Alors, dis-moi, j'y comprends rien, c'est ça la doctrine de l'Église. J'y comprends rien, Tatillon, j'y comprends rien. De toute façon, c'est pas dans la doctrine de l'Église. Je crois. Donc, je rentre dans la nuit de la foi, et à travers la nuit de la foi, je prends toute ma vie, et par amour, je la donne à Jésus, qui est mort crucifié, et à Dieu le Père. Alors, Dieu, quand il voit ça, il dit, ben, par exemple, alors là, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il me donne tout son amour, toute sa vie, toute son âme, tout son esprit, toutes ses souffrances, toutes ses croix, tout, sans me voir. Mais pour Dieu, c'est impossible, ça. Pour Dieu, c'est strictement impossible de faire ça.
Il craint.
Dieu, c'est impossible, parce que, oui, Dieu, c'est le Fils, le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Très Sainte Trinité, avant la création du monde, hein. Il s'est passé tout avant la création du monde. La première personne de la Très Sainte Trinité, c'est un petit peu comme l'épouse, c'est le pape qui dit ça. C'est le jaune qui se marie avec le bleu pour faire du vert. Voilà. Vous voyez du vert, hein? Vous avez du vert. Il y a combien de couleurs? Vous voyez une couleur, pourtant il y en a trois. Il y a le vert, le jaune et le bleu. Compliqué la Sainte Trinité, hein. Ils sont un et trois en même temps. Parce que c'est dur à comprendre, imbécile. Quand tu vois, c'est Saint Patrick qui explique ça. Quand vous voyez la couleur verte, il n'y a bien qu'une couleur. Et en même temps, il y en a trois. Oh, comme c'est compliqué. C'est vraiment un mystère incompréhensible.
Bon, la deuxième chose qui est pas de Dieu, c'est qu'on...
Tu te fermes. Zip. Alors, zip. Ah. Donc, le jaune, c'est-à-dire la deuxième personne de la Très Sainte Trinité, est face à face de l'intérieur avec le bleu, le Père, la première personne de la Très Sainte Trinité, comme l'épouse du dedans d'époux, épouse l'époux en le voyant. Et du coup, elle se donne à l'époux en le voyant. Comment peux-tu aimer quelqu'un que tu ne connais pas? Tu vas te marier, toi, quelqu'un que tu ne connais pas?
Non.
Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire une seule chair avec quelqu'un que tu ne connais pas. Il faut le connaître pour faire une seule chair avec lui. Et si tu ne connais pas, il n'est pas possible que tu fasses la communion des personnes en une seule chair. Ça risque à rien. C'est strictement impossible, même déjà matériellement. Alors bon, là. Donc, Dieu connaît Dieu. Dieu, lumière, connaît Dieu. Principe. Donc, l'épouse, si vous voulez, deuxième personne de la Très Sainte Trinité, voit Dieu époux. Le Père, première personne de la Sainte Trinité, mais il le voit. Alors du coup, tu te rends compte quand tu vois Dieu, quand toi tu es Dieu, vie intime de Dieu, et que tu vois Dieu, tu le vois, alors tu l'aimes. Mais tu ne peux pas faire autrement. Attends, c'est le ravissement immédiat. Tu es absorbé, tu te donnes tout entier. Et tu disparais. Et lui aussi, en voyant la deuxième personne, il disparaît, parce qu'il voit son verbe. C'est la vision bénéfique, c'est la lumière de gloire qui fait que Dieu, quand il voit Dieu, il l'aime. Et Dieu, les personnes vivent d'amour ensemble, parce qu'ils se voient. Ah ouais, mais ces petits-là, attends, sans rien voir, ils aiment Dieu. Ça, c'est incompréhensible pour Dieu. C'est impossible pour Dieu. Donc il y a deux choses qui étonnent Dieu. Le mal et la foi. C'est pour ça quand il voit la foi de Marie, quand Dieu voit la foi de Marie, il est tellement étonné que du coup il s'engueule dans le mystère de l'incarnation. Voilà l'autel du sacrifice de l'agneau. Les deux colonnes, oui. Mais si vous fonctionnez dans le ressenti, la foi n'existe plus. D'accord? Donc,
Ça, c'est pas très compliqué à comprendre. Donc le chemin est donc, puisque j'ai des fêlures, puisque je suis blessé, etc., de rentrer dans... Puisque j'ai enfin une blessure. Vous vous rendez compte, j'ai une blessure. Hein, par exemple, supposé, j'y comprends rien. Mais ça, c'est super, ça. Qu'est-ce que ce serait bien, ce serait encore mieux si j'étais mongolien, je comprendrais encore moins. Ce serait super. Ah ouais. Ah ben j'y comprends rien. Donc, s'il comprend rien, ben c'est super. Alors, bon. Alors, eh ben, j'ai une pauvreté. Voyez, il faut accepter ces pauvretés de fait. J'ai une souffrance, j'ai mal. Oh, c'est mal. Je me sens mal. Oui, je m'attendais. Ben, dès que j'ai une souffrance, ah, enfin, dites-vous bien, si vous êtes, si vous voulez étonner Dieu, si vous voulez être dans votre corps originel, dans l'affection de votre niveau de vie, dans la spiritualisation du corps, dans l'union transformante jusqu'au mariage spirituel, les quatre, voilà, les quatre, merci. Alors, et bien à ce moment-là, vous vous nourrissez d'une nourriture particulière qu'on appelle la souffrance. La nuit. C'est la nuit, c'est la souffrance qui nourrit l'unité du corps spirituel de l'homme sur la terre, pour permettre donc au Christ de suppléer à toutes nos pauvretés. Et ça, c'est quelque chose de très extraordinaire, parce que, regardez, comment est-ce que je vais faire ? Exercice pratique. Parce que maintenant, comme le docteur Jean-Paul a dit qu'il fallait faire des exercices pratiques... Exercice pratique. À un moment donné, vous... Bon, il y a des gens qui n'ont jamais souffert de leur vie. Moi, par exemple, je n'ai jamais souffert de ma vie. Oui, non, je n'ai jamais souffert de ma vie. Bon. Mais enfin, quand même, une fois ou l'autre, ça m'est arrivé d'être quand même de mon cœur qui saigne un peu, quand même. Vous voyez ? Bon, les gens qui n'ont pas de peau. Vous savez ce que dit saint Thomas d'Aquin ? L'absence de croix dans une vie est un signe certain de réprobation éternelle. L'absence de croix dans une vie est un signe certain de réprobation éternelle. Saint Thérèse d'Avila dit qu'en vrai, dans le mariage spirituel, la caractéristique du mariage spirituel, c'est une soif insatiable de souffrir. Insatiable, intarissable. Ça, tu ne peux pas l'inventer, ça. Si tu n'as pas cette soif impatiente de souffrir, tu n'es sûrement pas dans la septième demeure. Donc tu as du chemin à faire encore un peu. Mais ce n'est pas toi qui vas dire je vais tout faire pour avoir une soif impatiente de souffrir. Surtout pas. Ça, ça se fait automatiquement. C'est un ravissement. Hein. C'est avec une allégresse, une joie, une saveur, une facilité, un délice qu'on a cette soif impatiente de souffrir. Sinon, c'est du masochisme. Alors ça devient métaphysique, c'est surtout pas comme ça qu'il faut faire. Alors maintenant, méthode. Donc, vous avez eu une souffrance il y a 10 ans, il y a 15 ans. Vraiment, votre cœur a saigné. Ou là, maintenant, mais sur le moment, souvent, c'est pas facile. Vous voyez quelque chose qui vous avez vraiment... Oh. Vous avez une mémoire. Vous avez aussi une mémoire divine. Vous avez une mémoire, une liberté, vous pouvez vous remettre dans l'instant présent, et puis revivre dans l'instant présent. C'est pas une régression, alors là, je vous en supplie, pas de régression. Ça, c'est la clé. Hein. Si vous faites régression, vous utilisez des fréquences. Si vous le faites dans l'instant présent, c'est spirituel. Donc, vous vous arrêtez, vous faites un acte d'adoration, vous mettez en présence de Dieu, et... Du coup, vous acceptez de ressouffrir dans l'instant présent. Une souffrance que vous n'aviez pas accepté de souffrir il y a 10 ans. Vous la ressouffrez dans l'instant présent. Pas de régression, hein. C'est pas du rebirth, la régression, machin, truc, pour revivre sa naissance qu'on a mal vécu, revivre sa machin qu'on a mal vécu, je me réinfantilise, etc. Non, c'est pas ça du tout, je m'abandonne pour que, rentrer dans l'état second métaphysique qui correspond aux vibrations de l'époque, ben, tout ça, à dégager. Dans l'instant présent, acte d'adoration. Je me touche, sens externe, les yeux ouverts, les oreilles ouvertes. Les sens externes ouverts. Si vous voulez, je prends un chapelet, comme ça au moins avec mon sens du toucher, je touche quelque chose.
Là, je touche la personne qui est à côté de moi. Ah ouais, là, je suis sûr que je touche quelqu'un. Ça sent shampoing. Alors, je sens les odeurs. Bon, vous voyez, je sens les odeurs. Vous voyez, les sens externes. Oh, non, je sens le parfum, le lys. Bon. Alors, je fais un acte d'adoration. Je vois que j'existe. Donc, je suis suspendu à la créature de Dieu. Je me remets entièrement à l'intérieur de Dieu. Je sors de ce monde, je rentre dans l'instant éternel de Dieu, et tout en étant dans l'instant présent. Et avec la présence de Dieu, je revis la souffrance. Ben oui, c'est vrai, j'ai encore mal de ça. Mon cœur saigne encore un peu. Ah, voilà. Ah, enfin une souffrance. Merci Seigneur, enfin une souffrance. Ça, c'est beau, ça. Ah, oh, ça me plaît, ça. Oh, enfin une souffrance. Génial. Une plaie. Et je m'assimile, je rentre dans cette souffrance. Je laisse cette souffrance prendre toute sa place. Ah, dans mon acte d'adoration, elle prend toute sa place. Cette souffrance a le droit de vivre. Elle a le droit de respirer. Je l'aime.
Ce que tu veux dire, Patrick, c'est que quand on souffre, il faut accepter.
Il ne faut pas rétracter.
Voilà.
Pour comprimer encore plus la dégradation du péché originel. Mais au contraire, il faut, grâce à cette souffrance, dilater, permettre à cette souffrance de prendre toute sa place. Et du coup, elle prend toute sa place. Je lui donne toute ma vie à cette souffrance. Je lui donne toute ma vie en ce moment, dans le temps présent. Je respire dans cette souffrance. Elle prend toute ma vie intérieure. Tout. Ah, je suis transformé en souffrance. Je ne vis que de cette souffrance. Avec Dieu, avec Jésus, avec Marie, avec en communion avec ma moitié sponsale, si, mystiquement, si vous voulez, c'est possible. Mais voilà, en communion avec la communion eucharistique que je viens de faire il y a 3 heures. Voilà. Ah. Oh. 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 Ah. Ah. Le gémissement ineffable du Saint-Esprit, vous avez entendu parler. Ah.
Tu nous permets quand même d'appeler le docteur si on a trop mal.
Non. Et je m'aperçois que cette souffrance, une fois que je l'aime, une fois qu'il y a de l'amour, une fois que j'ai de l'amour, que je vis cette souffrance avec de l'amour, avec de la gratitude, avec de la jubilation, à ce moment-là, je me rends compte immédiatement de quoi ? Je me rends compte immédiatement, merci, je me rends compte immédiatement qu'il y a entre cette souffrance-là, a été physiquement, intégralement, personnellement vécu, la mienne, celle-là, par le Christ. Et donc, ça y est, puisque j'ai vécu dans l'amour cette souffrance, ça devient une action de grâce, non point sur le plan simplement de la retrouvaille de la plénitude de mon corps, de mon âme et de mon esprit, mais en plus de celui qui a vécu cette souffrance dans une crucifixion intégrale, et il a vécu cette souffrance, la mienne, je parle bien de la mienne, hein. C'est la mienne, c'est pas celle de Colette, c'est celle-là. Il l'a vécu intégralement et du coup, je passe de moi, l'eau, au Christ qui souffre, mais avec un amour infini de cette souffrance. Et donc je passe, j'ai transformé ainsi. Et du coup, j'engloutis cette souffrance dans ce que le Christ en a souffert, de ma souffrance. Mais lui, il l'a vécu avec un amour sans limite et donc je passe de l'eau au vin. Et c'est comme ça que j'ai transformé ma souffrance en croix. Ayant transformé ma souffrance en croix, alors à ce moment-là, toutes les dimensions de mon corps, de mon âme et de mon esprit qui souffrent dans l'unité du Christ, le Christ a souffert et a souffert toutes les autres souffrances, me réunissent à nouveau dans la rédemption du Seigneur et dans l'amour au monde entier. Et donc mon corps revient à la ressemblance de l'amour de Dieu, et en même temps j'étonne le Seigneur dans mon acte de foi, qui dans la nuit de ma souffrance m'unit au Verbe de Dieu dans le corps broyé de Christ. Il n'y a pas d'autre voie d'accès aux retrouvailles de l'unité de l'homme. Si je ne fais pas ça, je vais bétonner mes fêlures,
avec des métapsychiques christiques. Baphométique.
Ah, quoi ?
Baphométique, oui, mammonique, luciférique, ah, satanique.
Oui. Enfin, le présent, asmodéique, etc.
Oui. Bon, alors si vous ne connaissez pas la litanie, vous regarderez le film de Mel Gibson et vous verrez que le démon se démasque progressivement. D'abord, Satan, le serpent antique. Et après, vous verrez
que grâce à Jésus, la passion de Jésus, au fond du cédron, Mammon.
Lorsque Jésus est précipité au fond du cédron, tu boiras au fond du torrent, puis tu seras redressé par la tête.
Maman.
Maman. Puis après, Zabulon. Zabulon. Le démon, le prince de la malédiction. Sur Judas, vous savez. Caline, Caline. D'ailleurs, le terme hindou de Zabulon, c'est Caline.
Allez,
un prince de l'enfer.
Ne les
appelle
pas.
Hein. Non, mais attends, c'est attends, tu l'appelles, tu vis de la croix, et du coup, t'inquiète pas, il sort. Alors, ensuite, au moment de la révélation, Asmodée, c'est tous les princes de l'enfer. Hein.
Celui que démon la porte dans ses bras, qui ressemble à un bébé tout gélatiné. Hein. Asmodée, c'est le prince de la sexualité. Dès que vous faites un péché contre la sexualité en dehors du mariage, vous êtes dans les bras d'Asmodée.
Alors, ensuite, après la flagellation, j'ai oublié celui du moment de la condamnation, celui de la dérision. Bon, mais on le voit à peine.
C'est celui qui passe devant
l'image. Non, le nord, c'est toujours le même démon.
Oui, bien sûr.
C'est le même démon, mais du démon sort un serpent.
Bien sûr.
C'est Satan. Du démon sort du mur dans le fond du cédron. Oh, le maman. Oh.
C'est celui de la dérision. À quel moment?
Là, à un moment où il est condamné, il y a là.
D'accord.
Ouais. Bon, les 10 calines, les 10 malédictions, c'est parce qu'il y a du 10 commandements, et donc, ils sont 10 enfants à se précipiter sur lui. Puis après. Avant Asmodée, excuse, il y a évidemment les mouches, vous vous rappelez? Les mouches. Béelzéboul. Qui nous fait toujours choisir dans le sens de la mort éternelle. Le refus de la croix. Le refus de la souffrance. Le refus du sang versé. Le refus, vous voyez, de donner sa vie, etc. Le refus de souffrir. Vous n'aimez pas la souffrance, c'est pas, vous n'aimez pas. Bon. Donc pourquoi vous n'aimez pas Dieu? Vous n'aimez pas ce retour à Dieu, si vous voulez. Vous n'aimez pas la croix. Parce que la croix est glorieuse. Dès que vous rentrez dans la croix, ça y est, vous êtes aux portes de la paix, aux portes de la gloire. Donc si vous n'aimez ni la gloire, ni Dieu, vous n'aimez pas la croix. Bon. Après Belzéboul, c'est Asmodée, on l'a vu, dans le film. Il a très bien fait le film. Après Asmodée, pour ça il a très bien fait le film. Après Asmodée, eh ben,
c'est où, bon. Il est où Asmodée dans le film?
Mais là, flagellation, il est là, c'est la sexualité, quand Jésus est flagellé, il n'y a pas un morceau de sa chair qui soit pas entièrement labouré sur au moins un centimètre. 5880
plaies.
Alors ensuite après Asmodée, qu'est-ce qu'on a? Bon, etc. De toute façon, ah oui, et bien vous avez le fameux Baphomet, c'est qui arrive au sommet de la croix du mauvais Aaron, et puis toujours avec ses yeux, il dit il a beau être crucifié.
C'est le corbeau.
Oui, c'est ce fameux corbeau noir, et puis du coup, il bouffe les yeux.
Oui.
Parce que ça représente la gnose. La connaissance ésotérique, il est sur la croix à côté du Christ et il sait que c'est le Christ et il dit mais alors il n'y a qu'à descendre, enfin c'est ridicule. Et quand le bon larron dit mais Seigneur, maintenant mon royaume il commence à rire, ben c'est ridicule ton histoire. À ce moment-là, il bouffe les yeux. Il va fauver, c'est le prince de l'aveuglement, du gnostique, ésotérico, toutes les techniques vous voyez, qui marchent dans l'Apocalypse. Pour la thérapie. Dans l'Apocalypse, Baphomet est le prince de l'efficacité. Dans l'Apocalypse, c'est marqué 3 fois. C'est plus efficace. Ça, c'est Baphomet. Faisons-le parce que c'est plus efficace.
Ça, c'est pas faux. C'est plus efficace, mais du coup, c'est beaucoup moins fécond. Il y a moins de vie spirituelle. Donc la lutte entre l'efficacité et la fécondité, c'est la clé de la lutte de l'Apocalypse. Ça, c'est dans le livre de l'Apocalypse seulement. Hein.
La lutte
entre l'efficacité et la fécondité. La fécondité, c'est du côté de la vie, la fécondité, c'est du côté des résultats. Donc pour un thérapeute, c'est capital de comprendre ça. Bon. Après Baphomet, vous avez à genoux, au fond de l'enfer, celui qui vient de comprendre que Jésus n'est pas seulement le Messie, mais qu'il est Dieu lui-même. Alors il se met à genoux au fond des enfers en hurlant, sans désespoir. C'est le démon. C'est Lucifer. Il est décoiffé. Vous voyez ? Ça, c'est quand même. Donc vous avez tous les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et Lucifer et le démon sont un seul. Avec les 6 manifestations dans le film. C'est pas mal. Non. Le démon et Lucifer sont 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Des raisons que mettre le
démon. Hein?
Des raisons que mettre le démon.
Mais non, je ne le mets pas parce qu'il est pratiquement. C'est le.
Baphomet, c'est un chenot ou non?
Non, Baphomet, c'est un représenté sous forme de corps. Bon, on vous verrait plus longuement. C'est ce que ça représente, c'est pas ça qui est intéressant. Pourquoi vous m'avez parlé des princes de l'enfer là? Je comprends rien.
Ah, oui,
là, Baphomet, donc, vous comprenez bien que la technique, donc exercice spirituel maintenant, dès que vous avez une souffrance, même pas si, hein, elle vous fait encore souffrir aujourd'hui, vous inquiétez pas, soyez sans crainte. Si vous n'avez pas pardonné, si vous avez refoulé cette souffrance en la sans pardonner, sans la recevoir dans l'action de grâce, hein, sans en utiliser tout son fruit dans le mystère de la croix, c'est que la souffrance est encore chez vous, vous pouvez encore l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser dans votre passé, mais vous pouvez l'utiliser dans l'instant présent. Une trahison. C'est extraordinaire. Vous voyez, quand vous êtes confesseur, le prêtre, quand il est confesseur, il le sait, ça. Hein, parce que quand il fait remonter quelque chose, un pardon qui n'a pas été donné, ça repleure. Hein. Et puis alors, souvent, il dit, j'aurais jamais cru que ça me fasse pleurer. Oui, je croyais que c'était fini. Ouais, bien sûr, tu n'as pas pardonné. Alors attends, donc, c'est toujours là. Donc maintenant, si tu as une souffrance, même si... Après, petit à petit, tu vas te... Jésus a vécu ça comme ça, hein, il faut bien le dire, à chaque coup dans la flagellation, hein, quand même, attention, ça pénétrait un centimètre dedans la peau, ça prenait un centimètre carré et ça l'arrachait comme ça sur 2,5 cm. Le coup suivant rentrait dans cette plaie de 1 cm, ça allait jusqu'à l'os, hein. Ça arrachait à chaque coup. Jésus vivait ça dans l'amour, l'action de grâce. La jubilation. Il allait arracher, effectivement, tous les hommes à son ami. À chaque moment qu'il a su une souffrance, il était. Marie aussi a vécu dans sa chair, de l'intérieur, son unité spontanée, incarnée, charnelle, de son corps physique de femme. Mais de l'intérieur, son corps était lui-même arraché à chaque coup, et c'était dans l'unité. La compassion, si vous voulez, la complémentarité, mais l'offrande, l'action de grâce est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et du coup, une joie, une vous voyez, saint Thomas d'Aquin dit, avec une facilité, avec une promptitude, une immédiateté, et avec une saveur qui fait d'elle la corédentrice du monde. Et nous sommes appelés à être les fils du nouvel Adam de la nouvelle ère, plutôt que d'être les fils d'Adam et Ève déchus. Donc c'est bien dans la croix du Seigneur, le mystère de compassion, que nous rentrons pour rentrer dans la spiritualisation du corps. Nous verrons donc la prochaine fois comment on passe de la spiritualisation du corps à la mise en place du corps spirituel qui est ici. Spiritualisation du corps, c'est ici. Et on verra comment on met en harmonie le corps originel, la spiritualisation du corps et le corps spirituel. C'est rien, c'est un qui sort, ça c'est bon. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.